Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'espère que vous avez maintenant noté notre nouveau rendez-vous quotidien. Une heure d'antenne, une heure d'entretien nous mène chaque soir de 21h à 22h en compagnie de ceux qui créent, de ceux qui inventent, écrivent, parlent, par les temps qui courent. L'émission est conçue avec Jeanne Aléos, Corinne Amar, Romain de Bec-de-Lièvre et elle est réalisée par Lise-Marie Barré avec aux manettes Delphine Baudet.
Par les temps qui courent, Marie Richeux.
Ce soir, avec le romancier Yannick Enel. Ce soir, c'est une histoire de réveil. Bien sûr, on n'empêche pas les autres d'être occupés à mourir, mais si on les réveille, si on se réveille, c'est peut-être banco. Un homme écrit un scénario sur la pensée d'Herman Melville, son génie, son esprit alvéolé. Il lui paraît évident que ce film doit être réalisé par le mystérieux Michael Cimino, mais personne ne veut le produire. Il s'entête, s'envole pour les États-Unis, traverse Paris avec puis sans Dalmatien, assiste à de puissantes funérailles à Colmar, tombe amoureux, regarde pour la millième fois Apocalypse Now, traverse de nouveau Paris avec des réfugiés et se fait arrêter par un lac de sang. Tout ceci dans un ordre qui ne compte pas forcément tant le livre tourne. C'est en ne cédant pas sur son désir que le narrateur se réveille. C'est en tenant ferme sa couronne qu'il finit par la voir portée par d'autres et de manière si bouleversante que l'objet de la quête peut changer. C'est la quête désormais qui compte et ce qu'elle a à voir avec l'absolu et la vérité. Ce lieu en nous où flambent les émotions, qu'est-ce que c'est ? Écrivez-vous Yannick Enel, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être là. Tiens ferme ta couronne, c'est le titre de votre nouveau roman. Il est paru aux éditions Gallimard. Alors, j'ai dit peut-être, juste avant qu'on commence l'émission, je vous ai dit peut-être on ne va pas trouver toutes les portes pour entrer dans ce livre-là. Je pense qu'il y en a une, c'est The Great Melville, ce fameux scénario écrit par le narrateur. Peut-être vous êtes l'une des personnes à l'avoir lu, ce scénario qui est au début du roman. Qu'est-ce qu'il y a dans ce scénario ?
Je ne suis pas très sûr de savoir ce qu'il y a dans ce scénario. C'est un peu un coffre de pirate, c'est le trésor. Dans mon esprit, il s'agissait d'un cahier rempli de citations. Et il s'agissait d'animer magiquement, poétiquement, ces citations entre elles, ces phrases. Et ce scénario, au fond, il est écrit dans la petite chambre, dans le studio du narrateur, sur un mur. Et il forme une espèce d'arbre séphirotique. Je n'ai pas écrit ce scénario. Il est impossible à écrire et je n'ai pas envie de connaître le destin quasi clochardisé enfin de ce narrateur, mais j'aime l'idée que dans un livre il y a un autre livre secret, un livre impossible à écrire, et j'aime aussi qu'il y ait des noms cachés, des œuvres cachées. Alors voilà, c'est un peu un talisman ce scénario mythique qui est en fait une supercherie, c'est un scénario auto-mythique. Voilà, la vie de Melville, c'est pour moi le sésame qui permet d'entrer dans le monde rêvé du cinéma et de rencontrer de manière hallucinée Michael Cimino, enfin, le dernier des grands cinéastes. Voilà.
On y reviendra. Pourquoi est-ce que vous aimez qu'il y ait des livres dans les livres ?
Bah pour moi, c'est l'enfance de l'art. C'est il y a toujours d'autres livres dans un livre. Enfin, dès que vous parliez de porte à ouvrir, dès qu'on lit un livre, on va en lire un autre. Au fond, ça sera infini. Et aussi parce que c'est presque un peu talmudique. Je sais pas comment dire ça. Il y a à l'intérieur d'un mot, il y a un autre mot. À l'intérieur d'un nom, il y a tous les noms du monde. Et alors, le narrateur de ce livre cherche, au fond, on pourrait dire classiquement, les noms de Dieu. Même si chez lui Dieu est assez peu monothéiste, enfin il y a les dieux, il y a les déesses. Et pourquoi des livres dans un livre? Parce que c'est le monde, c'est comme ça que cette mosaïque ne cesse de se nommer en fait en appelant d'autres phrases qui, je sais pas, moi c'est un fil. Quand j'ai écrit ce livre, c'était, il y avait Melville. Il y avait Moby Dick, j'ai tiré le fil de Moby Dick, je suis arrivé à Ellis Island, et Ellis Island me faisait penser au parrain de Coppola, au parrain 2, à Pérec, à toutes sortes de choses, à un foisonnement. Et j'avais envie d'écrire un livre sur cette folie référentielle, enfin tous ces noms qu'on a dans la tête, comment faire en sorte qu'ils ne nous rendent pas fous, mais qu'au contraire, ils nous ouvrent des portes. Alors on ne sait pas sur quoi donnent ces portes-là, mais en tous les cas, c'est une navigation. Voilà, c'est comme ça que j'ai rêvé ce livre, comme une tapisserie de et dont les fils seraient des noms propres.
Et c'est peut-être pas un hasard si l'un de ces noms propres ou l'un de ces noms d'œuvres, c'est Moby Dick. Oui. Il est possible que ce soit aussi une des portes d'entrée pour vous dans la littérature ou dans l'écriture. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez souvent dit. Pourquoi ce texte-là? En quoi est-ce qu'il est aussi une forme d'enfance de l'art pour vous?
Alors d'une part, bon, je pourrais dire que c'est un des premiers livres que j'ai lus réellement au pensionnat quand j'avais, je sais pas, 14-15 ans. Et c'est un livre qui m'a tout de suite saisi parce que j'avais sans doute lu, un peu comme tout le monde, des versions enfantines. Mais je sais pas, j'ai ce livre composé exclusivement d'hommes me semblait un livre de quête vers cette idéalité étrange, mystérieuse, féminine. Je sais que la baleine en anglais, c'est pas du féminin, mais voilà, je voyais ça, cet horizon au bout de la mer comme étant ce vers quoi je voulais tendre aussi. Donc pour moi, ça ne raconte pas une histoire de chasseur,
de baleine,
ni encore moins de pêcheur. Mais évidemment, c'est un livre alvéolé mystiquement, spirituellement, qui est une quête de la vérité, voilà. Et c'est un livre aussi dont j'aime le côté encyclopédique. On parlait de livres à l'intérieur des livres, ça m'a plu tout de suite parce que c'était comme un gros livre dont on ne verrait jamais le bout parce que c'est un livre qui se cite lui-même, qui est rempli de citations, c'est comme un manteau d'Arlequin, donc c'est le livre total. Et même, il a un côté un peu ingrat, ce livre. Il est écrit dans une bizarre langue. Enfin, c'est plus que de l'anglais. Enfin, c'est du, je sais pas comment dire ça. Et puis, c'est un livre qui parle du démoniaque. Et donc, du mal. Et ça, je pense que la littérature, la moindre des choses, enfin, l'enfance de l'art, c'est quand même de se confronter avec des phrases à cette chose insaisissable qui est la structure meurtrière du monde. Enfin, le crime sans fin qu'on appelle l'espèce humaine. Et il s'agit de ça dans Moby Dick. Donc voilà, pour moi, ça a été le premier des livres.
Le premier des livres en tant que lecteur, est-ce qu'il vous ouvre à l'écriture et dans ce cas, de quelle façon? Parce que c'est pas exactement pareil.
Ouais. Alors, généalogiquement, si je puis dire, c'est plutôt Rimbaud, l'autre Hamon qui m'ont ouvert, parce que Moby Dick, c'est, encore une fois, c'est très harassant, enfin, c'est trop grand pour nous, comme dirait Deleuze. Ça m'a pas du tout incité à écrire, au contraire, mais depuis que je me suis mis à écrire des romans, il y a toujours Moby Dick quelque part. Oui. Soit les personnages de mes romans lisent ou relisent Moby Dick, soit dès qu'ils sont devant, extatiquement devant quelque chose qui les saisit, ils voient la baleine, ils la voient partout. Et c'est comme un peu comme avec Don Quichotte. Enfin, moi, je vois pas des comment dire ça. C'est un peu les ailes du moulin. Enfin, c'est cette baleine est une montagne de phrases pour moi qui m'apparaît sans cesse. Voilà.
Le narrateur de votre roman donc a cette relation très puissante avec le livre Moby Dick et puis plus généralement avec Melville, avec sa pensée, presque avec l'intérieur du crâne, l'imagination oui. de Melville. Il pense que ce scénario doit être réalisé par Michael Cimino. On l'écoute.
For what it's worth, in the trade magazines in Hollywood, I was called the Golden Boy of Hollywood.
On m'appelait le Golden Boy de Hollywood dans les magazines professionnels.
Within one year,
en l'espace d'un an,
I was rag and bone.
Du jour au lendemain, je suis passé du statut de Golden Boy au statut d'un petit gamin de la rue que personne s'intéresse, vous voyez, en l'espace d'un an.
So, after winning five Oscars,
après avoir remporté cinq Oscars
Deer Hunter,
pour Le Voyage au bout de l'enfer,
it only created more pressure.
Et bien, je me suis retrouvé sous une plus grande pression. Et là, je parle de moi, hein, je ne vous parle pas du cinéma d'une façon générale.
Because now one felt
j'ai eu à subir beaucoup de pression, parce qu'à ce moment-là,
you had to really,
je me suis rendu compte
really make an effort
qu'il fallait vraiment
to prove that
travailler
you were as good as they
dur
say,
pour
are.
Être à la hauteur de la réputation
it
qu'on vous avait faite.
Challenge.
Donc, c'était un très grand défi qui m'était lancé.
It was scary, in a way.
Et ça faisait peur, quand même.
It was like being a child, given a very powerful motor car.
Imaginez un enfant à qui on donne une grosse voiture.
Say, drive.
Et on lui dit, vas-y, appuie sur le champignon.
And win.
Et tu veux, il remporte la course, évidemment.
So, of course, this is what I tried to do.
C'est ce que je me suis forcé de faire, bien sûr.
And I didn't succeed.
Et je n'ai pas réussi.
Until 32 years later.
La voix de Michael Cimino au micro de Philippe Collin, c'était en février 2013 sur France Inter. Yannick Enel, on disait à l'instant que votre narrateur part à la recherche de Cimino parce qu'il veut que son film, que ce scénario soit réalisé par Cimino. Ils se rencontrent ou pas? Cette rencontre, moi, m'a fait penser presque à l'ouverture du Maître et Marguerite, quand on ne sait plus exactement ce qui se passe sur ce banc et qui est à côté de nous. Il est le nom de qui ou de quoi, Cimino, dans ce livre?
C'est un roi. C'est peut-être lui qui a la couronne du titre, et c'est peut-être pour cela, pour aller chercher la couronne, enfin, ou du moins un de ses éclats, que le narrateur va vers lui. Je sais pas, c'est le père des récits, enfin, c'est Flaubert, c'était moins le cinéma américain, et c'est moins l'incarnation pour moi du cinéma américain que quelqu'un d'autre, effectivement, que quelqu'un qui aurait déjà tout vécu, enfin, un personnage un peu shakespearien, et en l'occurrence Cimino, là on vient de l'entendre, enfin, c'est quelqu'un qui a connu la gloire très jeune et qui a connu le désastre aussi. On lui a même imputé la ruine d'un des grands studios hollywoodiens, parce que ses rêves étaient démesurés, parce qu'en tête il avait Proust, Henry James et Dostoïevski, alors qu'il travaillait dans un studio américain. Enfin, Cimino est le nom de la chose qui est tellement grande qu'une vie humaine ne suffit pas à la vivre, là. Et je pense que le narrateur de ce livre, bon, qui est dans un état très particulier, une forme de folie, d'acuité presque mégalomaniaque, et qui a aussi une vie qui a épousé une forme d'échec volontaire, d'échec social, disons, parce que il pense que la véritable réussite est invisible. Il voudrait se confronter à ce grand autre, voilà. Et bon, Cimino a ceci de particulier que pour moi aussi c'est un mythe, je dirais, du débordement des frontières. Dans ces films, j'ai souvent remarqué, dans Le Voyage au bout de l'enfer ou dans La Porte du Paradis, que les hommes sont féminins, et que les femmes, on leur attribue un lieu qui, dans le cinéma américain, est donné aux hommes. Et chez lui, jusque dans son visage, il y a eu quelque chose pour estomper l'appartenance sexuelle. Enfin, à un moment sur Internet, moi quand j'écrivais ce livre, il y avait des rumeurs comme quoi il serait devenu une femme. Et moi j'ai rêvé à ce visage tout en plastique de Cimino comme étant un espace justement où on n'est plus ni homme ni femme, où il y a quelque chose d'autre. Enfin, qui c'est. Je me suis dit que ce visage, c'était le cinéma pour lui, c'était un écran, c'était une page blanche, où il n'y a même plus besoin de projeter quoi que ce soit. D'ailleurs, Cimino ne réalisait plus rien. J'ai pensé que cet homme n'en finissait pas de faire du cinéma parce qu'il n'avait plus besoin de projection, il n'avait plus besoin de cet écran, il racontait des histoires. Voilà, j'ai projeté, comme vous voyez, sur Cimino, le destin de la poésie, au fond. Là où on en est arrivé, et c'est-à-dire un devenir imperceptible, quelqu'un qui raconte des histoires, qui est peut-être a la clé, voilà.
D'ailleurs, c'est pas un hasard si vous faites se rencontrer votre narrateur et Cimino à New York, non loin d'Ellis Island. Vous dites c'est le roi, c'est aussi celui qui déborde les frontières. Vous passez un moment, en tout cas vos personnages passent un moment à parler d'Ellis Island. On retrouvera d'ailleurs cet endroit cité un peu plus tard dans le roman. Comme si c'était aussi pour vous l'occasion de réfléchir à ce qu'on met comme frontière, au mur qu'on pose en politique ou intellectuellement.
Ouais. Bah, Cimino, déjà dans ses films, est l'un des seuls, ou l'un des rares du moins, à avoir interrogé la fondation de l'Amérique comme crime. L'Amérique était censée être la nation de toutes les nations, c'était un lieu utopique où tous les migrants allait fonder une nation sans appartenance. Et dans les romans de Melville, on lit ça. Enfin, c'est très beau, cette grande méditation cosmopolite. Et bon, ça a été un désastre, comme on sait. Et dans un des films de Cimino, donc La Porte du Paradis, on voit très bien le sort qui est réservé aux migrants, à savoir qu'il y a une extermination qui est mise en œuvre. C'est un épisode réel de l'histoire des États-Unis qui a fait scandale au fond quand Cimino l'a exhumé. Mais pour moi, c'est évident que dans ce roman, la rencontre avec la personne de Cimino devait se faire face à Ellis Island, qui est le lieu de la sélection.
Vous dites même que c'est peut-être un programme politique qui ne fait que s'appliquer et que nous ne faisons que continuer à appliquer en Amérique et ailleurs.
Pour moi, Ellis Island, là, c'était un symbole. Enfin, il fallait absolument que je travaille sur cette question, que ce lieu soit là, dans la mesure où effectivement, moi, je pense vraiment que cette sélection, cette manière qu'on a en Europe, enfin de ne pas accueillir ou de trier l'accueil des immigrés, des migrants, relève de quelque chose qui de manière barbare a eu lieu aux États-Unis au siècle dernier, jusque dans les années 30, et qui s'est également perpétué jusqu'à des massacres. Enfin, la question de la sélection, c'est un mot nazi, en fait. Et j'avais envie de montrer que dans le cinéma de Cimino, il y a cette conscience de la criminalité de l'espèce humaine et du sort qui est réservé aux parias. Voilà, il y a cette question qui pour moi reflue depuis évidemment plusieurs années. Dans le roman, j'ai écrit un autre roman portant sur cette question il y a des années, de manière précise, enfin sur les sans-papiers et la manière dont ils sont sacrifiés par la politique européenne. Mais tout tournait autour de quelque chose qui a lieu en 2015 et la manière dont tous les corps deviennent sacrifiables. Et voilà, un moment où le narrateur va croiser dans son périple à Paris, un périple un peu halluciné, il va croiser deux jeunes migrants qui sont comme les enfants perdus à la fin de Moby Dick, enfin qui reviennent, qui sont comme deux petits rois, qui sont comme peut-être l'innocence possible dans ce monde entièrement criminel que je mets en scène dans ce roman.
Voilà, ce sont deux réfugiés qu'il fait monter dans sa voiture. Ouais. On est un petit peu avancé dans le roman. En effet, le lac de sang, elle tente de s'écouler dans Paris et peut-être un peu plus largement d'ailleurs. Et ce sont en effet des jeunes gens qui sont tristes parce qu'un chien est perdu. Et comme si l'innocence pouvait se jouer à cet endroit-là. Il y a en effet un chien qu'on cherche avec le narrateur. Et ce qui est triste, c'est que non seulement qu'il soit perdu, mais que peut-être il sache qu'on le cherche. Qu'est-ce qui joue dans cette tristesse-là des enfants à la fin, des enfants réfugiés, de ces jeunes réfugiés?
Alors je pense que se joue l'immense mélancolie, j'allais dire européenne, mais l'immense mélancolie d'aujourd'hui, enfin de quelque chose qui est définitivement perdu, et c'est pas qu'un chien malheureusement, et c'est même pas seulement l'innocence, c'est l'immense tristesse enfantine devant l'inéluctabilité du massacre, de la séparation, et du coup j'ai choisi effectivement de mettre en scène cette perte en choisissant un chien qui est un dalmatien, donc qui vient pour nous de l'imaginaire
enfantin, pour le coup
très enfantin, qui est aussi le chien qui est offert à Diane par le dieu Pan. Et ce chien est comme un, oui, c'est comme l'objet toujours perdu du désir. Enfin, c'est pour moi, c'est ce qui rattachait le narrateur à une vie à peu près réelle, disons. C'est ce qui lui permettait de ne pas sombrer dans la folie. Et c'est l'objet d'une transaction, c'est-à-dire qu'il garde le chien de son voisin Et en échange de quoi, l'autre lui donne un écran, justement, sur lequel il va voir tous les films dont il se repaît chaque journée. Mais oui, ce chien perdu est à mes yeux un peu énigmatique aussi. Je ne sais pas très bien pourquoi il se perd dans ce livre. Mais de fait, c'est comme si le roman essayait de se mettre à la place d'un animal abandonné dans une ville. Comment est-ce qu'on fait pour perdre un chien ? Il y a plusieurs personnes, plusieurs lecteurs, plusieurs amis m'ont dit « Mais comment c'est possible enfin, de perdre un chien ?» Et de fait, il s'agit évidemment de ce qui se trame durant cette nuit qui, à Paris, a été celle des massacres du Bataclan, entre autres. J'aimais bien, je ne sais pas comment le dire autrement, mais je voulais mettre en scène l'inattention. Il est impossible d'être aux aguets, de savoir qu'un événement a lieu, un événement terrible. Et je voulais raconter aussi le fait qu'on passe son temps à penser à autre chose, comme on dit. Et durant cette nuit, dont on ne sait pas encore dans le roman que c'est la nuit fatale, cet homme fait toutes sortes de dans sa dérive alcoolisée et hallucinée, fait toutes sortes d'expériences. Et en se réveillant, il y a cette première perte. Bon, on lui a piqué son portefeuille, etc. Ça, c'est la routine de l'alcoolique fêtard. Mais il a perdu son chien. Et c'est l'histoire d'un réveil, comme vous le disiez, de quelqu'un qui va, au sortir de cette nuit, se rendre compte que l'absolu n'est peut-être pas de l'autre côté de l'océan. L'absolu n'est peut-être pas dans des films dont il scrute scrupuleusement les épiphanies de la vérité, mais tout simplement dans la rue, dans le dehors le plus proche. Et partir à la recherche de ce chien, c'est enfin se remettre à regarder, à écouter, à chercher.
C'était le 23 septembre. Je m'en souviens avec précision parce que ce jour-là, c'est mon anniversaire. J'étais en train de fêter l'événement comme il se doit, en sifflant un pack de bière au lit devant Apocalypse Now, le film de Francis Ford Coppola, lorsque sur mon téléphone, le message est apparu. Depuis mon retour de New York, j'avais la certitude de détenir quelque chose. Une chose absolument cruciale. Une chose terrible. Peut-être n'existait-elle qu'à peine. Peut-être même n'avait-elle pas de nom. Mais cette chose ne cessait de me sauter au visage. Et comme une bête rugissante que l'effroi a longtemps muselée au fond de sa grotte, elle surgissait des ténèbres et dévoilait ses mâchoires chaque fois que je regardais un film. Oui, j'étais assez fou pour croire qu'un secret circule à travers des films. Assez fou pour imaginer qu'il soit possible d'y accéder, et même d'en recevoir la lumière. Ce secret, je l'avais cherché à travers les films de Michael Cimino, et voici que la recherche s'élargissait encore. Car la vérité est comme le corps immense des déesses. Elle est là et pas là. On la voit et on ne la voit pas. Moi, je la voyais. Était-ce cette voie lactée où scintillent les lueurs d'or, où se trou puant où roulent des crânes verts? En suivant Melville à travers le monde, en chassant avec lui non seulement une baleine qui avait pris la place de Dieu, mais aussi un flot d'ombre et d'horreur, et des clartés d'adoration, et la joie du labyrinthe, et l'engloutissement dans l'abîme, et les yeux rouges du crime, et la possibilité orageuse et sereine de l'amour. J'avais découvert qu'une étincelle s'allume au cœur de la destruction, comme un cristal arctique, et que cette étincelle suffit pour mettre le feu au monde. Ce feu est blanc, croyez-moi. Il est le contraire du ravage. Nous y brûlons sans être consumés. Et ne riez pas, c'est exactement ce que je vois. Un incendie immaculé.
Yannick Enel, on pourrait être dans le salon de votre narrateur avec cette bande originale d'Apocalypse Now, puisque c'est un film qui tourne en boucle. Romain de Bec-de-Lièvre lit un extrait de Tiens ferme ta couronne, votre nouveau roman. Au départ, le narrateur dit « Je ne cherchais pas à être reconnu, je voulais juste qu'on ne ricane pas de moi ». Et il redit dans cette phrase « Ne riez pas, mais je voyais quelque chose ». C'est tout de même un paragraphe qui dit « J'étais assez fou pour croire ». Il y a vraiment presque... J'allais dire presque un programme du roman qui va ensuite s'étirer dans ce paragraphe, puisqu'il y a l'idée d'être assez fou pour croire qu'il y a un trésor, qu'il y a un incendie. Vous riez ou vous ne riez pas en tant qu'auteur de ces gens qui sont assez fous pour croire qu'en effet il y a un trésor ?
Oh bah je crois que j'en fais partie, oui. Mais je sais aussi que si on le dit avec trop de sérieux, non seulement on va nous prendre pour fous, mais on ne va pas nous croire. Donc là, le narrateur de ce livre, et sans doute moi aussi, essaye de faire preuve de tactique, de stratégie. Enfin, il détourne l'attention grâce à ce qu'on appelle l'autodérision. Voilà. L'idée qu'il y ait un trésor, la quête de ce qu'on appelait philosophiquement la vérité, enfin, qu'il faut continuer à appeler par ce nom, implique de créer non seulement des rapports, mais des nuances de rapports pour se mettre en route, pour s'acheminer vers là. Et je pense, enfin, moi c'est devenu un peu un réflexe. Enfin, en écrivant ce livre, je pense qu'il vaut mieux en rire. Enfin, parce que le rire n'invalide pas le grand sérieux de la chose, mais rend celui-ci beaucoup plus léger et même admissible, si je puis dire.
Oui, mais à quelle fin, justement ? C'est-à-dire, alors cet homme, ce serait un de ceux qui voient, puisqu'il dit, voilà, moi je le vois, cet incendie, ce feu blanc, moi je le vois. Et alors quoi, ce n'est suffisamment pas admissible pour pouvoir être su ? Il ne faudrait pas que ça se sache d'une certaine manière ?
Non, pas du tout, c'est par pudeur, en fait. C'est par pudeur, c'est parce qu'il sait bien qu'on va trouver ça trop fou. Il a la pudeur de non seulement de dire que c'est peut-être pas sûr, mais de se présenter comme étant quelqu'un d'un peu fou. Sans doute n'est-il pas du tout fou, sans doute voit-il vraiment. De fait, quand il trouve un lac de sang à la place de la pyramide du Louvre, après la nuit du 13 novembre, c'est parce que pour lui, la réalité se déverse sur un plan poétique. La réalité trouve ses propres métaphores. Et oui, c'est un voyant sans doute, enfin au sens rimbaldien. Enfin, c'est une sorte de poète.
Et j'ai dit qu'il ne cédait pas sur ses désirs, oui. Qu'il ne cédait pas sur sa couronne. Oui. Et en fermant le livre, je me suis dit, il ne cède pas sur ses visions. Il ne cède pas sur ses
oui,
visions.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est Lacan qui disait ça. Enfin, ne pas céder sur son désir. Mais je me disais, voilà, comment est-ce qu'on raconte l'histoire? Enfin, comment est-ce qu'on pourrait raconter aujourd'hui l'histoire de quelqu'un qui a oublié pourquoi il est roi, qui ne sait même pas s'il est roi d'ailleurs, mais qui sent bien qu'il se passe quelque chose dans sa tête et qui a envie de ressaisir cette souveraineté sans pouvoir d'ailleurs, sans possession, qui est ce qu'il appelle lui le royaume. Et c'est par l'humour, enfin, si l'humour est possible, parce que quelqu'un qui vient vous asséner l'idée qu'il sait, il y a rien de plus antipathique, et il y a rien de plus, enfin comment dire, quelqu'un qui dirait je suis la vérité, non seulement ça se finit mal en général, comme vous savez, et on a tendance à penser que c'est faux en fait. Voilà quelqu'un qui est animé par quelque chose qui lui échappe sans cesse, qui est l'idée que, comme le dit Melville, c'est une phrase qui est citée sans cesse dans le livre, à cette époque de mensonges, la vérité est obligée de fuir dans les bois comme un daim blanc immaculé. Et voilà, je pense que c'est... Je ne sais pas si Saint François d'Assise avait de l'humour, mais je me dis, tiens... ce narrateur, ça pourrait être un saint joué par Buster Keaton. Vous voyez, il y aurait quelque chose qui fait que l'humour ne vient pas du tout entrer en contradiction, ou l'autodérision ne vient pas entrer en contradiction avec l'immensité d'absolu de sa croyance, enfin, et de sa, sa foi dans...
Alors ouais, dans quoi vision. Ouais, dans quoi justement, puisque si son royaume avait un lieu à ce narrateur Yannick Enel, dont on dit qu'il est c'est un narrateur déchu, c'est vous le disiez tout à l'heure, il est clochardisé, mais il a quand même une couronne. Alors ce serait le royaume de quoi? Du cinéma, de la littérature, de la poésie?
Ni l'un ni l'autre, ni je crois que c'est un royaume qui est un entre-deux, qui n'existe pas comme un lieu habitable, mais uniquement comme un lieu aimable, si je puis dire. C'est le lieu de l'amour. Enfin, c'est à un moment, je me suis amusé à imaginer comment est-ce qu'on se promène la nuit dans un musée. C'est un fantasme assez commun, mais là, c'est le musée de la chasse et de la nature. Et je pense que là, il y a ce lieu par lueur. Ce lieu n'existe pas. C'est peut-être le seul lieu qui échappe aux politiques. C'est peut-être le seul lieu qui échappe aux partitions, aux contradictions, aux polarités. Oui, je dirais que c'est l'amour, mais l'amour est aussi dans les étincelles sensuelles. L'amour est dans les phrases, dans le langage. Et dans ce livre, l'amour est aussi dans un lac. Enfin, dans... C'est la question, au fond, j'essaye de réfléchir à ce que vous m'avez dit. Au fond, je pourrais appeler ça l'indemne. Dans, étymologiquement, l'indemne, c'est le nom d'année, enfin, ce qui échappe à l'enfer. Est-ce qu'il y a des parcelles de réalité qui échappent à l'enfer? Enfin, s'il D'ailleurs, y en a, c'est ça.
Sans ne rien dévoiler, mais ce mot-là est suffisamment important dans votre bouche pour qu'il soit souligné, la question de l'indemnité, d'être indemne. À la fin du livre, quelqu'un meurt et sa sœur lui rend hommage. Et en lui rendant hommage, elle rapporte certains de ses mots. Et elle dit « Ma sœur m'a demandé de vous demander si une partie de votre cœur est intacte. » Et il y a quelque chose peut-être de cet ordre-là, c'est-à-dire oui, intacte comme... comme n'étant pas envahissable ou n'étant pas contrôlable.
Ouais, ouais. Je crois que c'est, la, c'est une très grande question. Enfin, c'est non seulement une question politique, mais c'est la question de savoir si, ce qu'on fait de nos vies et si dans ce qu'on fait de nos vies, il y a quelque chose qui demeure irréductible. Enfin, Duras, n'arrêtez pas de parler de ça, du fait que... quelque chose est là qui résiste, même le mot résiste est trop, enfin, quelque chose comme un cœur palpitant en chacun de nous fait qu'on, qu'on ne cède pas sur notre désir, même dans la pire des situations. Et ben, je crois que le royaume il est là en fait, vous voyez, c'est, pas, c'est un royaume sans pouvoir, c'est un royaume sans, qui n'existe pas sur la carte. Mais qui est à chercher en, au plus profond, et l'irréductible a dit ça Duras, ouais.
Oh, solitude, my sweetest choice. Oh, solitude, oh, solitude, my sweet. Just
Il y a une fontaine à gauche et une autre fontaine à droite. Actéon qui a soif se réjouit, mais ne sait vers laquelle des deux fontaines il portera ses pas.
Le destin, qui sait, le dirige vers la fontaine de droite, près de la rive où Diane et ses nymphes, exténués par leurs travaux, viennent de jeter leurs vêtements et se préparent à subir la glaciale étreinte des eaux.
À l'aspect d'Actéon, les nymphes se mettent à pousser des cris aigus et se pressent autour de leur reine pour dérober sa nudité au regard du profane.
Mais il est trop tard. Actéon a déjà vu ce qui est un mystère pour les dieux et pour les hommes. Il est resté stupéfait d'admiration devant cette grande vierge tout en sueur, semblable à une bête.
La déesse voudrait punir, mais elle n'a pas de flèche à sa portée. Alors elle jette de l'eau à la figure d'Actéon.
Maintenant, va te glorifier de m'avoir vue toute nue.
Aussitôt, une large ramure de serre s'élève sur la tête d'Actéon. Son cou s'allonge, ses oreilles s'aiguisent, ses jambes maigrissent, et tout son corps se couvre d'une fourrure tachetée.
De plus, les esprits du héros descendant de Mars sont saisis par la crainte. Il prend la fuite et s'étonne lui-même de la rapidité de sa course.
Quand une fontaine lui renvoya l'image de ses hautes cornes, il voulut s'écrier « malheureux ». Mais nulle parole ne se forma sur ses lèvres. Il ne put que bramer douloureusement, et des larmes coulèrent de ses gros yeux. C'est depuis ce temps que les cerfs partagent avec les hommes la faculté de pleurer.
Yannick Enel, c'est une archive de 1967, 50
comme
ans.
C'est beau. Hein.
Ouais. Diffusée sur France Culture, Soirée de Paris. Une lecture à plusieurs voix des métamorphoses d'Ovide. On se centre ici évidemment sur cet épisode où Actéon est saisi par la beauté de Diane qui se trouve nue. D'une part parce que c'est un motif très important de votre roman « Tiens ferme ta couronne » et d'autre part parce que ça dit tellement de choses de ce qui est par ailleurs développé sans y faire référence. Pourquoi est-ce que ce mythe-là, cette séquence d'Actéon est si importante pour le livre ?
Mais je crois que dans ce qui va détourner, dans l'histoire qu'Ovide raconte, ce qui va détourner Actéon de sa chasse, parce que il y passe ses journées, enfin, c'est quelqu'un qui ne fait que tuer, ce qui va le détourner de sa chasse, c'est le passage furtif de la déesse. Et donc la transformation d'un terrible vice, enfin le fait de vouloir tuer, en un désir de s'approprier la nudité impossible, interdite. Et comme le raconte le mythe, en essayant de passer de l'autre côté, il devient la proie. Enfin, le chasseur devient la proie. À travers cette allégorie, au fond, je voyais quelque chose d'une quête toujours possible, mais j'ai encore le désir fou de faire en sorte qu'Actéon puisse voir la déesse nue sans en mourir. J'ai même tendance à penser que peut-être la littérature est le lieu où on pourrait voir la vérité, en quelque sorte, ou ce qu'on veut mettre, ou la manière dont on veut incarner cette vérité, sans en payer
le prix
à ce point-là, c'est-à-dire sans en mourir. Et par ailleurs, il se trouve que je suis très très obsédé par un lieu qui s'appelle Nemi, à 30 km de Rome, où il y avait un sanctuaire dédié à Diane. Il y avait un bois sacré autour du lac, et bien avant l'Empire romain, quelque chose d'une royauté sacrée avait lieu là, à partir d'une ritualité très très mystérieuse, très bizarre, qu'un ethnographe qui s'appelle Fraser a découverte, peut-être réinventée d'ailleurs, on ne sait pas trop, dans un gros livre qui s'appelle Le Rameau d'Or, à savoir que ce lieu était constitué de hors-la-loi. On revient à cette histoire qui m'obsède, enfin, d'un lieu pour les migrants. Enfin, il se trouve que dans ce lieu-là, dans ce bois, sous la protection de Diane, tous les bandits, les hors-la-loi, ceux qui n'avaient pas de ceux qui n'avaient pas de, comment dire ça, ni de domicile, ni rien, enfin, tous les réfugiés aussi pouvaient circuler. Et parmi eux, il y en avait un qui était le servant de la déesse Diane. On l'appelait le roi du bois. Et il avait ceci de particulier, que sa souveraineté n'était fondée sur rien, sur aucun héritage, sur aucun pouvoir, mais il suffisait de le tuer pour devenir le roi du bois. Et donc sa souveraineté était liée à la manière dont il s'exposait à la mort. Jamais aucun homme, dit le mythe, n'a été autant exposé que le roi du bois. Et voilà cette histoire du roi du bois et de Diane. De manière un peu tortueuse, j'y ai plaqué l'histoire d'Actéon et de la déesse, et j'y vois, dans cette forêt de symboles, j'y vois quelque chose qui se déchiffre de notre condition et du délaissement politique de ce qu'on appelle les réfugiés. Et voilà, quelque chose de labyrinthique se joue dans ces parages-là. Et donc j'ai fait en sorte que ce narrateur, peu à peu, depuis cet embrouillamini qui est devenu sa vie, son obsession pour le cinéma, sa solitude, se mette en route, de manière comme ça imperceptible, du moins au début, vers quelque chose dont on va comprendre peu à peu que c'est une histoire mythologique. Il rejoue dans sa vie l'histoire immémoriale d'Actéon et de Diane. Voilà, un peu comme dans, je sais pas, il y a un cinéaste que j'aime bien, Jim Jarmusch. À chaque fois, il a l'air de raconter une histoire qui se passe aujourd'hui, mais en fait, très secrètement, ça se passe au XIIIe siècle au Japon. C'est un samouraï. Ça s'appelle le sacré au fond. C'est-à-dire, on a l'air de faire du rap, on a l'air de mener une guerre des gangs dans le Bronx, mais en fait, nos paroles, nos gestes sont activés par un texte très ancien. Et de la même manière, j'ai lancé Actéon, comme ça, aujourd'hui, à Paris, sous les oripeaux de ce type, un peu de ce loser cinéphile.
Et vous dites, Yannick Hennel, que peut-être la littérature, c'est l'endroit où on peut faire face au corps de la déesse qui est là et qui n'est pas là, ou faire face à la vérité, ouais, ou encore faire face à la beauté sans mourir. Ouais. Pourtant, je reviens à cette femme qui finit par mourir à la fin du livre, devant une œuvre qu'elle a tant contemplée, le Retablissenheim, à Colmar, comme si elle en payait le prix. Alors, pourquoi elle meurt, cette femme-là?
Mais c'est comme la perte du chien, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui meurt pour nous.
C'est la sacrifier, ça fait partie des corps sacrifiés.
Ouais. Je dis pas que c'est bien, hein. C'est l'horreur, c'est le désespoir de l'existence humaine, c'est qu'il y a quelqu'un qui meurt. Et c'est pas tant le fait qu'on va mourir, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui meurt. Et donc, cette femme est décrite par sa sœur comme quasiment une sainte. Comme quelqu'un qui aurait dû être prise dans la vérité du Christ. C'est une scène un peu cinglante. J'ai des amis qui trouvent cette scène effarante parce que j'expose un corps un peu comme on fait une présentation psychotique, enfin à Sainte-Anne. J'expose ce corps, cette femme, face au Retablissenheim, et j'ai inventé un discours de deuil de sa sœur qui somme Dieu, Jésus, je crois qu'elle l'appelle le Seigneur, elle qui est athée, elle le somme de ressusciter sa sœur.
En 10 minutes.
Et dans la violence de ce désir de miracle, il y a, dans la violence de ce désir impraticable au fond, il y a quelque chose qui pour moi relève du tragique, de la tragédie. Voilà, je voulais que le narrateur soit confronté à ce que dans le catholicisme on nomme la vérité, c'est-à-dire le corps du Christ, enfin, la parole christique, et ça ne passe pas, ça marche pas pour lui. Il assiste à une non-résurrection. En même temps,
ça vous permet de dire que peut-être ça ne passe pas par là. Que le réveil et la résurrection dont il est question depuis le début du roman
exactement.
Ne passent peut-être pas par cette
fois-là. Exactement. Mais ce narrateur, du coup, va découvrir, grâce à cette mort, Et grâce au fait que la femme qu'il aime, Lena Schneider, l'amène pour assister à cette oraison funèbre, il va découvrir qu'il y a un autre passage, que peut-être il n'y a pas besoin de cette divinité-là pour aller dans ce que Pascal appelle le pays de la vérité, et que peut-être il n'y a pas besoin de la religion. Voilà.
Timino continue à faire des films, dis-je. Je m'en étais aperçu ce soir-là, lorsqu'il s'était mis à parler des détails. À la fin, lorsque les récits s'achèvent, avait-il dit, lorsqu'il n'y a plus de récits, toujours il reste les détails. Eux seuls survivent. Les détails, m'avait-il dit, en regardant au loin vers l'Hudson, sont des étincelles de vérité. Puis il s'était levé. Écoute les détails, m'avait-il dit. Et voici qu'avec sa silhouette frêle et une rapidité de mime, en quelques secondes, il avait métamorphosé l'espace. La promenade était devenue une scène de théâtre, un lieu de tournage. Et il s'était mis à raconter une histoire d'ouvrier qui travaille dans un champ de coton. Appelons ça « Blood from the beginning », « Du sang depuis l'origine », avait-il dit en souriant. Il racontait, ou plutôt il jouait cette scène. Dès qu'il nommait un personnage, ses mains lui sculptaient une silhouette. Chacun d'eux parlait à travers sa voix qui faisait apparaître le grand ciel fixe du Missouri, la poussière des vérandas, la main calleuse d'une vieille femme, des gouttes de sang sur un tablier de cuir. En pivotant sur lui-même, avec un léger mouvement des doigts ou un simple rictus, Cimino trouvait un personnage et le lançait dans le récit. Ses bras n'arrêtaient plus de former des cercles, des spirales. Ses mains taillaient l'espace. Elles découpaient dans la matière du monde. Et voici qu'en se rejoignant à angle droit, elles faisaient un cadre. Voilà. Cimino dirigeait.
Yannick Hennel, Romain de Bec de Lièvre, lit un deuxième extrait de votre roman, Tiens ferme ta couronne. On a commencé avec Cimino et puis on va peut-être terminer aussi avec Cimino et avec cette idée que lorsque le récit s'achève, il reste les détails. Est-ce que vous diriez que à la fin de ce livre-là, les éclats de vérité qui ont été tellement cherchés par vos personnages restent ou résident dans les détails?
Mais je pense qu'il se baigne dans les détails, ce narrateur. Enfin, il finit par se baigner là, dans ces éclats-là. Et en tous les cas, pour moi, c'est ce qui reste toujours d'un livre, d'une conversation, d'une étreinte, de ce qu'il y a de plus intense dans la vie. Chaque jour, ce reste-là, comme le reste du sacrifice, comme on dit, il y a une part qui reste, qui est constituée d'étincelles, de gouttes, de petits mots, de choses qui ne relèvent plus de l'articulation, des phrases, mais de couleurs, enfin, comme émanant d'une peinture. Et je pense que là, ce qu'on appelle un roman, enfin, ou un film, c'est une manière de rassembler ces choses-là, de rassembler tous ces micro-morceaux d'intensité. Alors oui, quand j'écrivais le livre, Cimino est mort. Et pendant l'écriture, sa mort m'a, comme on parlait de ça tout à l'heure, sa mort m'a donné la fin du livre et le livre lui-même. Enfin, je me disais, mais comment je vais continuer comme ça avec ce personnage là aussi trop grand pour moi. Et il se trouve qu'il est mort. Et du coup, le livre est une sorte de miroir brisé, vous voyez, qui en se brisant justement ne va pas forcément se porter malheur à lui-même, ni ouvrir un espace de malheur, mais va se transformer en quelque chose dans quoi on ne peut que se baigner au fond. Et ça s'appelle un livre, ça s'appelle un amour. Et voilà, il y a des figures qui nous ouvrent des portes justement. Parfois, ces figures ou ces êtres ne le savent même pas. Enfin, et je crois que le roman que je tentais d'écrire parle très simplement de ça, enfin, de la manière dont quelque chose a lieu pour nous sans qu'on le sache. Enfin, quelqu'un est mort quelque part, une vieille histoire, une histoire immémoriale se re-raconte à travers une rencontre. Un chien se perd parce qu'on a trouvé une femme. Un film n'en finit pas de passer dans un cinéma pourri de banlieue pour une personne, 100 personnes ou pour personne justement, mais il a lieu. Et il s'agit voilà de face au lac de sang, disons qu'on pressent à chaque instant. En même temps que le massacre, il s'agit d'être capable d'avoir accès au bain contraire, enfin à la baignade heureuse.
Et pourtant, on n'empêche pas les gens d'être occupés à mourir.
C'est dans la chanson de Bob Dylan qui dit ça, celui qui n'est pas occupé à mourir est occupé à naître. Enfin, il s'agit de ça, enfin voilà, arriver à naître, arriver à se réveiller. Bien sûr qu'on ne peut pas empêcher la puissance de la mort, mais au fond c'est pas très grave. Enfin, la question c'est l'invention d'une autre puissance, c'est-à-dire comme dans ce livre, il s'agit de pas aller regarder chez son voisin qui est en fait l'incarnation de Satan quasiment. Il faut détourner se détourner et par ce détour accéder à l'autre côté du lac de sang.
Tiens ferme ta couronne, c'est le titre de votre roman, Yannick Enel. Il est publié à l'infini. C'est vraiment un bon nom de collection pour
oui,
ce roman.
Oui, c'est pas mal,
non,
je trouve.
Aux éditions Gallimard. Merci beaucoup.
Merci à vous. When's a crime forgiven by them? You can never live it down. I can only advise to never.
Par les temps qui courent, quel nom tourne en boucle dans votre tête?
Bob Dylan.
Que celui-là?
Ah, quel nom, c'était au pluriel? Ah ben là, on va plus arrêter là.
Par les temps qui courent, que nous apprennent les chiens?
À échapper à la domestication.
Ils y arrivent bien?
Ça dépend, ils font croire qu'ils se laissent domestiquer, voilà.
Par les temps qui courent, quel poème?
Bon, les Illuminations.
De Rimbaud.
Ouais.
On se retrouve lundi à 21h sur France Culture avec la romancière Marie Dariussec. Et d'ici là, n'importe où, n'importe quand, sur franceculture.fr et Twitter. Let it rise, let it take in what can't be held. And with life, let me rise, let me stand up high. Let me then decide who
suffer death in its own black blur. And where are my friends? And where is my family? They've all gone away, though it's I who have left them. Let the others cry while our voice is still. We will wait, we may lie like wolves in the fields. Oh, hold your throats in silence a while. There is enough noise now from where they are. In the silence, lie in the silence, take. Oh, take in the rumor of the passing through. The house will be empty, a house of love. Calling out, there was nothing else for us to do. And where